Accueillir tout simplement le jour qui vient et le salut d'un voisin. Accueillir le bonheur qui se présente et le malheur qui s'abat. Accueillir le frère qu'on attendait et l'ami qu'on n'attendait pas. Accueillir la chaleur et la soif, le froid et la faim, mais aussi l'abondance démesurée des jours où l'on fait fête. Accueillir les énigmes de l'existence, de la vie, de la mort. Accueillir l'avenir venu de Dieu. Oui, accueillir le monde comme un don qu'on reçoit tous ensemble et non comme une proie qu'on s'arrache. Accueillir la vie avec une confiance spontanée, une capacité inlassable de toujours recommencer. Accueillir avec une foi paisible. Accueillir la grâce et la paix qui nous sont données une fois de plus de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte, que vous soyez paroissien de l'oratoire ou de passage parmi nous en ce dimanche de juin. Bienvenue à Bertrand de Cazeneuve, président du conseil régional de notre église en région parisienne. C'est lui qui nous délivrera le message dans quelques instants. Et puis aujourd'hui, c'est aussi une joie pour notre communauté d'accueillir Christine Letrado, qui a demandé à devenir membre de l'Église protestante unie de France. Donc, je suis particulièrement heureux de vous saluer ce matin, Christine, ainsi que vos filles, Morgane et Solène, qui vous accompagnent en ce jour important. Alors, frères et sœurs, je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, rassemblés aujourd'hui, nous voulons te dire merci. Oui, merci pour ce temps d'écoute et de rencontre. Oui, différents, nous le sommes. Toi, tu nous aimes dans notre singularité. À tes yeux, nous sommes des êtres exceptionnels. Oui, tu nous rappelles combien nous sommes précieux à tes yeux. Alors nous t'en prions maintenant. Ouvre nos yeux, nos cœurs, nos intelligences. Elles en ont besoin, afin que nous puissions mieux nous connaître nous-mêmes, mieux voir le monde, mieux voir celles et ceux qui nous entourent, et puis pouvoir mieux te connaître et t'aimer. Amen. Je vous invite à vous lever pour bénir l'Éternel avec le premier spontané. Nous allons louer l'Éternel. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Oui, on dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés et tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Et nous poursuivons notre louange en chantant le psaume 81, les strophes 1, 2, 3 et 4. Le psaume 81. Un homme qui lui demande quel est le premier de tous les commandements, Jésus fait cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et Jésus ajoute, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Amen. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Dieu bon, donne-moi ta grâce. Je t'ai abandonné, ne m'abandonne pas. Je me suis éloigné de toi, sors à ma recherche. Oui, conduis-moi dans ton pâturage parmi les brebis de ton troupeau. Nourris-moi de l'herbe fraîche de ta parole. Père, je te le demande humblement par Jésus-Christ. Ton fils tant aimé. Frères et sœurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Dieu a relevé Jésus d'entre les morts et l'Esprit vient sur chacun de nous. Par lui, nous savons que Dieu nous aime comme ses enfants. Par lui, nous sommes assurés qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Dieu nous réconcilie avec lui, il nous accorde la paix de son pardon, il nous appelle à une vie nouvelle. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance.
Je vous invite à vous asseoir. Voilà. Christine, je vous invite à vous approcher.
Merci.
Voilà, Christine, vous avez été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme la plupart d'entre nous, vous avez cheminé dans la foi, vous avez connu un certain nombre d'épreuves, vous êtes une chercheuse de sens. Et puis, depuis maintenant 2 ans, vous participez régulièrement au culte ici, au temple de l'Oratoire. Et il y a quelques mois, vous avez manifesté votre désir d'être accueillie officiellement dans l'Église protestante unie de France. Alors, aujourd'hui, pour nous, c'est une joie de vous y recevoir très, très fraternellement. Alors je vous invite maintenant à confesser votre foi, tout simplement.
Je crois en Dieu, l'Éternel, le tout autre et le tout proche, celui qui m'invite à la liberté de le questionner sans cesse, en prenant soin d'échapper toujours à mes enfermements, celui qui n'est jamais là où je l'attends, déconcertant, comme le fiancé du Cantique des Cantiques. Celui qui sauve par sa grâce seule, inconditionnellement. Enfin, celui qui a donné au monde son Fils, Jésus-Christ. Je crois en Christ, mon frère, un frère tendre et miséricordieux, un frère dérangeant aussi, qui m'oblige à agir quand je voudrais demeurer dans la douce quiétude de mon petit confort personnel. Un frère qui m'ouvre les yeux sur le scandale de la pauvreté, de toutes les exclusions, quand j'aimerais bien les garder fermés. Je crois en l'Esprit Saint, souffle de Dieu qui renouvelle toutes choses et appelle à recommencer ce qui était abandonné, à ouvrir ce qui était fermé et qui rend vivante dans l'aujourd'hui de ma vie la parole de l'Évangile. Enfin, je crois avec Søren Kierkegaard que ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin.
Frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous lever. Ensemble, nous allons prier. Père, tu as veillé sur Christine. Tu l'as accompagnée dans les bons et dans les mauvais jours. Avec elle, ce matin, nous voulons te rendre grâce. Nous te demandons de la combler de tes bienfaits. Fais-la grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Pour nous-mêmes et pour notre Église, nous invoquons ta présence. Garde notre communauté dans la fidélité à l'Évangile et que nos cœurs soient ouverts et accueillants. Amen. Chère Christine, nous vous recevons maintenant comme membre de l'Église protestante unie de France. Bien sûr, je vous invite à continuer d'approfondir votre foi, mais sur ce sujet, je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Je vous invite également à prendre part à la vie de, de l'Église, ici à l'oratoire, dans toutes ses dimensions, dimensions spirituelles, culturelles, matérielles. Et puis la vie chrétienne, bien sûr, ce n'est pas qu'ici, c'est également hors les murs. Nous avons vocation à être des serviteurs de l'humanité. En tout cas, que Dieu soit votre paix, Christine, et qu'il soit notre paix à tous. Frères et sœurs, vous qui êtes là ce matin, vous qui accueillez Christine dans notre église, eh bien, je vous invite à l'entourer, bien sûr, de votre affection, de votre amitié, de votre sympathie. Je vous invite à la soutenir par la prière, que cette profession de foi soit une invitation pour chacun d'entre nous à ranimer le don que nous avons reçu. Et je vous invite maintenant à chanter « Grand Dieu, nous te bénissons ». Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité.
Frères et sœurs, je vous invite à entendre trois textes bibliques ce dimanche. Le premier dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 17, versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je prendrai une branche de la cime d'un cèdre élevé et je la mettrai en place. J'arracherai du sommet de ses branches une pousse tendre et je la planterai moi-même sur une montagne haute et sublime. Je le planterai dans la montagne qui domine Israël et il dressera sa ramure et portera du fruit, deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux de toute espèce demeureront sous lui. À l'ombre de ses branches, ils demeureront. Ainsi, tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur, Yahvé, le Dieu vivant, qui a abaissé l'arbre élevé et élevé l'arbre abaissé, qui a desséché l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. C'est moi, le Seigneur, qui est parlé et agiré. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, versets 1 à 10, « Que votre cœur ne se trouble pas, mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi en chemin. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi, le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe, lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que moi, je vous ai dit, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui demeurait en moi, fait ses œuvres. Croyez en moi. Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. » Et puis dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 18 à 23, que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous se considère comme sage selon ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. En effet, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit : Il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Il sait qu'ils sont futiles. Que personne donc ne mette sa fierté dans des hommes, des humains. Car tout vous appartient. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout vous appartient. Mais vous, vous appartenez au Christ et le Christ appartient à Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, garde-nous, sanctifie-nous par cette parole de vérité, donne-nous de la recevoir avec confiance, joie et espérance. Amen. Nous chantons le cantique « Confie à Dieu ta route ». Je suis le chemin et la vérité et la vie, dit Jésus dans cet évangile selon Jean. Et il se trouve, c'est une coïncidence ou peut-être un signe que nous avons entendu cette profession de foi, cet engagement de Christine très riche, très vraiment porteuse d'espoir, d'espérance sur la notion de chemin. Voilà, nous nous retrouvons donc sur ce chemin. C'est une parole difficile, cela dit, à entendre quand on y pense. Pourquoi faudrait-il qu'une personne, qu'une famille, qu'une église se constitue ainsi contre d'autres possibles ? Entendre dire qu'il y a un chemin, une vérité, une vie. Est-ce que ce ne serait pas une prétention démesurée de la foi chrétienne ? Comment entendre cette église joannique pour qui Dieu ne pouvait être connu qu'en Jésus-Christ ? N'est-il pas fou ou scandaleux de s'engager ainsi, de se séparer, d'opérer une discrimination entre les cultes, les religions, les philosophies, les cultures, pour ne faire confiance qu'à un seul ? N'y a-t-il pas là quelques traces et promotion de ce qu'on dirait aujourd'hui, ce qu'on appellerait un mouvement sectaire. Cette parole que nous entendons aujourd'hui et qui rejoint l'expérience de Christine nous place devant des choix. Et il me semble que cette parole se donne d'abord, et c'est primordial, comme un chemin. Ensuite, la pratique de ce chemin bouleverse nos images, nos représentations de Dieu, et elle touche à notre vie. C'est ce que je vous propose de méditer ce matin. Le fait ici primordial, c'est le mot chemin. Ce mot vient en tête dans notre texte biblique. Et dans la Bible hébraïque et le Nouveau Testament, ce qui vient en tête d'une énumération, ça donne le sens qui suit. Par exemple, vous avez le décalogue, « Soyez saints, car je suis saint du Seigneur », et ensuite ça décline, ou bien les béatitudes, « Heureux les pauvres », et puis après il y a une déclinaison de la forme de pauvreté dont parlait Jésus. Et ici, c'est le chemin et la vérité et la vie. Et c'est donc le chemin qui donne le sens. Si Jésus avait commencé par dire « Je suis la vérité », eh bien cette affirmation primordial aurait privilégié le dogme, l'idéologie, le fondamentalisme, l'intégrisme. Si la vie d'abord, je suis la vie. Et aujourd'hui, comme pour l'autre affirmation sur la vérité, cette affirmation aurait privilégié une pensée morale unique, que ce soit dans le sens pro-vie ou bien dans le sens transhumanisme. Je suis le chemin. Quand la communauté joannique dit cela à propos de Jésus le Christ, c'est dans un contexte difficile. Cette communauté a été exclue des synagogues parce qu'elle n'était plus assez juive, mais non encore reconnue par les communautés chrétiennes naissantes qui s'étaient constituées en réseau puis en église à partir des années 70, et s'étendant dans tout le bassin méditerranéen jusqu'à Rome. Je suis le chemin. C'est le mot primordial de cette série, le chemin et la vérité et la vie. Et l'importance de cette foi fait de cette foi en Jésus-Christ une recherche, une démarche, espérons une progression, un approfondissement. Chacune, chacun est appelé à emprunter ce chemin d'une vie en Christ qui nous fait rencontrer Dieu et grâce à lui nos prochains. Chacune, chacun est invité à avancer, à découvrir un nouvel horizon, non point une fois pour toutes, mais pas à pas, comme lorsqu'on prend un nouveau chemin. Je suis le chemin. Nous voici avec cette parole, cette image, cette invitation. Quelle que soit notre histoire, notre âge, il ne s'agit pas d'une définition, il ne s'agit pas d'une loi, il ne s'agit pas d'une obligation. Jésus est le chemin. Celui qui, excusez, je veux dire l'image qui peut être mal entendue, celui qui pratique Dieu. Mal entendu parce qu'il ne faudrait pas inverser, Dieu n'est pas pratique pour nous, ou ne devrait pas l'être. Le Christ n'est pas un modèle humain à imiter, ni un despote à subir, mais celui qui nous fait avancer. Alors pour chacune et chacun d'entre nous, nous avons cette proposition de foi chrétienne, qui ne se donne pas comme une opinion valable une fois pour toutes, que l'on aurait ou que l'on n'aurait pas. D'ailleurs, l'expression « avoir la foi » est une contradiction qui n'a rien à voir avec les paradoxes de l'Évangile. La foi chrétienne, c'est une relation, c'est une rencontre, c'est une démarche, un chemin que Jésus le Christ ouvre en nous mettant en relation avec son Père, le Dieu vivant. Et ce chemin, on ne sait pas vers où il peut conduire, vers quelle demeure il risque de nous emmener. La foi chrétienne ne se donne pas comme une assurance, mais comme un saut, une marche dont on ne connaît pas les suites. « Je suis le chemin », dit Jésus dans cet évangile selon Jean, « et qui m'a vu, a vu le Père ». Alors il y a deux disciples qui réagissent. Et c'est très intéressant, parce que nous sommes l'un ou l'autre disciple sûrement. Il y a Thomas. Thomas qui dit, qui objecte, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas ». Et puis il y a Philippe qui, lui, demande carrément l'impossible, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et je me demande si nous ne sommes pas souvent aujourd'hui dans notre relation, dans notre foi, dans notre cheminement avec l'une ou l'autre de ces réactions. Thomas, c'est celui qui, dans l'Évangile, est là depuis le début, puis qui ne peut pas croire à la résurrection. Évangile selon Jean, chapitre 20. C'est l'agnostique d'aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas une critique. Une personne sincère, sceptique, et qui a besoin d'une raison pour croire. Et c'est tout à fait légitime et compréhensible. Et puis Philippe, dans l'Évangile, c'est une de ces personnes qui habite à la frontière, qui est proche des Grecs et lesquels avaient une multitude de dieux. C'est aujourd'hui le syncrétiste. Pour qui il y a quelque chose de vrai dans toutes les religions, les cultures, à condition qu'on puisse donner une fonction, un visage, un destin, le dieu qui porte chance, santé, beauté, réussite. Ces deux tendances nous traversent sûrement, probablement, sûrement. Face aux questions de sens, de la condition humaine, de ses choix, nous pouvons avoir tendance à nous retrancher dans des certitudes, dans des modes qui nous semblent nous proposer de nous aider. Alors, entendons encore l'Évangile ce matin. Je suis le chemin, et qui m'a vu a vu le Père. En Jésus, Dieu s'est révélé à l'encontre d'évidences, d'opinions qui prêtent au divin toute surpuissance. En Jésus le Christ, nous sommes appelés à accueillir un Dieu vivant qui se donne dans la fragilité de la vie humaine. Contre-image de nos besoins de sécurité ou désirs de narcissisme, en Jésus le Christ, Dieu peut être aimé parce qu'il se révèle à nos cœurs troublés, que votre cœur ne se trouble pas, comme Père, comme le Dieu qui nous aime, qui tient à nous, qui nous attend, comme le Père de la parabole dans Luc, pour son fils perdu. Et quand Jésus dit « Je suis le chemin », je crois qu'il indique un service. Il parle de ce qu'il vit, de ces chemins qui font croiser les routes des prochains à aimer, à défendre, à secourir. Nous en entendons parler tous les jours dans l'actualité avec la question de l'accueil des migrants, des réfugiés, des exilés, que les je veux dire, situation incroyable, difficile, et puis c'est le fait que nous n'arrivons pas à assumer simplement un accueil de l'autre. C'est ainsi que ce chemin qui bouleverse nos images de Dieu touche aussi à notre vie. La demeure du Père, ce n'est pas d'abord un au-delà de la foi et de la vie, même si ce sera sans doute le cas. Ce n'est pas l'attente d'une autre vie, mais la vie elle-même, dans ce qu'elle est de relation, d'amour et de confiance entre le Dieu vivant et chacune et chacun d'entre nous. Alors peut-être sommes-nous troublés, perdus, dans une quête de sens, de Dieu, dans la peur. Peut-être que nous sommes en chemin pour rechercher une orientation évidente, identitaire, sécuritaire. Entendons, je suis le chemin, dit Jésus, le chemin qui nous fait marcher dans la vie en vérité. C'est un chemin de vie à suivre qui n'enferme pas dans une citadelle, dans un temple, mais qui ouvre à la liberté et au service. Nous chantons le cantique 258, les strophes 1, 2 et 3. Tu me veux à ton service.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus aujourd'hui. Un grand merci au pasteur Bertrand Cazeneuve qui est venu donner la prédication aujourd'hui. Merci aussi pour les rencontres que nous avons eues cette année avec vous. Vous nous avez aidés à avancer, à aller sur un chemin, à dépasser les situations auxquelles nous faisions face. Merci pour votre écoute, pour votre grande humanité. En tant que président de l'Église protestante unie pour la région Île-de-France, nous avons pu compter sur vous. Merci. Aujourd'hui, les annonces seront guidées par la feuille rose. Merci. La feuille rose que vous avez reçue récemment, avec un sujet qui est le sujet des vacances, avec le lâcher-prise. Mais il y a trois messages qui sont aujourd'hui d'actualité pour nous dans la feuille rose. Le premier message, c'est celui de Richard Cadou, qui rejoindra sa nouvelle paroisse pendant l'été à Menton et qui nous adresse un message dans lequel il partage avec nous son expérience de l'oratoire pendant toute cette année. Ce n'est pas simplement un message de revoir, certainement pas d'adieu, c'est aussi un message d'envoi qui nous invite à nous interroger sur ce que nous sommes et comment nous le faisons. Dimanche prochain, le culte sera présidé par Richard. Ce sera son dernier culte en tant que pasteur de notre paroisse. À l'issue de ce culte, dimanche prochain, il y aura un moment sympathique où nous nous rassemblerons autour de lui et de Claude pour leur dire notre amitié, notre reconnaissance pour ce ministère si court, mais si marquant. Nous serons nombreux à vous entourer et à vous dire à bientôt. Et puis, d'ores et déjà, vous pourrez trouver sur la table devant l'entrée du temple un livre d'or et une boîte, une urne. Alors, il est recommandé de pratiquer et le livre et l'urne pour marquer le coup. Voilà. Et puis, bien sûr, d'être présent dimanche prochain pour être avec lui, avec nous tous. Le deuxième message, c'est celui de notre nouveau pasteur, Béatrice Cléromazir, qui se présente à nous dans la feuille rose. Elle démarrera son nouveau poste pastoral le 1er juillet. Dès le prochain conseil presbytéral, qui est le dernier avant la séparation des vacances, dans 10 jours, nous la recevrons de façon à l'accueillir et à commencer le travail avec elle. Béatrice sait pouvoir compter sur nous pour le début de son ministère auprès de nous. Nous allons l'introduire aux activités de l'oratoire, nous allons lui faire rencontrer les équipes de bénévoles, nous allons également lui expliquer les locaux, parce que si on la laisse devant l'armoire des clés au 4e étage, au secrétariat, elle risque d'être un petit peu surprise. Et donc, bien sûr, l'accueil, ce n'est pas simplement le conseil presbytéral qui le fait. C'est notre affaire à tous. Dans la discipline de l'Église réformée, rien n'interdit d'inviter les pasteurs à dîner. Et donc, que chacun se sente invité à mieux rencontrer nos pasteurs. L'an prochain, Béatrice sera le seul pasteur en titre à l'oratoire. Elle sera aidée, elle sera assistée, mais elle doit pouvoir compter sur la bienveillance, l'amitié de nous tous. Le troisième message, mais ce n'est peut-être pas le dernier en fait, c'est celui de André Ducrot qui nous explique, nous expose ce que sont les règles de gouvernance dans notre paroisse qui est conforme en tout point à ce qu'est le système presbytéro-synodal en vigueur dans les églises issues de la Réforme. Ce document de André Ducrot, notre président du Conseil presbytéral, est important. Et c'est à la fois un rappel, un peu un point d'orgue à la suite de l'année que nous avons vécue, mais c'est aussi certainement un incipit pour une vie nouvelle. André n'est pas là aujourd'hui, mais je crois que nous pensons à lui particulièrement dans la fin de cette période de vacances pour lui. Il nous a beaucoup aidé cette année. Et puis, bien sûr, il y a les activités qui se poursuivent. Alors, la première activité, c'est aujourd'hui, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous la patrouille des... la compagnie des dauphins. Pardon, le clan des dauphins. Je fais des erreurs.
Alors, bonjour à tous et merci de nous accueillir. Enfin, on organise une vente de gâteaux à la sortie du culte. Voilà. Et donc, si vous voulez faire un geste pour nous aider et encourager notre compagnie, ce serait sympathique de votre part. Merci.
Merci beaucoup. Les activités de la semaine, l'été arrive, le programme en apparence est plus léger, mais en fait demeure ce qui reste quand tout s'échappe, les textes et la louange. Les textes demain, Hébreux pour les commençants, à 19h, avec Christophe Niankowski, qui démarrera à 19h jusqu'à 20h30, et c'est salle Roberti. Et puis, samedi, à 18h, avec le pasteur Richard Cadou, c'est la louange, un moment de silence, de parole aussi, de partage et de louange, de 18h à 19h, à la maison presbytérale, au quatrième étage. Enfin, rien ne serait complet si on ne remerciait l'organiste, remplaçant du remplaçant, c'est dire parfois à quel point il y a des avanies. Et nous remercions donc Enguerrand Moutonnier de nous avoir rejoints ce matin pour le culte et pour accompagner nos chants. Très bon dimanche à tous. Pardonnez-moi, c'est le moment de l'offrande.
Louons l'Éternel. Il est bon et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître et de recevoir dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa vie, de sa mort, de sa présence et de son royaume. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit, afin qu'en ce pain et en ce vin, nous ayons communion les uns avec les autres et que nous recevions chacun et tous ensemble la vie qui vient de Dieu. Oui, il est bon et c'est notre joie ce matin de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe après le repas en disant : Cette coupe est l'alliance nouvelle à mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons à cette coupe, c'est la mort du Seigneur que nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne.
Père, tu connais notre faiblesse. Envoie sur nous ton esprit, souffle de vie, souffle de renouveau. Qu'en recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils, Jésus le Christ. En cet instant, nous te remettons Christine Letrado, nous te remettons celles et ceux qui se préparent à une démarche analogue. Oui, nous te confions celles et ceux qui sont en recherche, qui sont en chemin, quelle que soit leur appartenance ou leur non-appartenance. Nous te confions notre communauté et chacun de ses membres, avec ses joies et ses espoirs, ses peines et ses épreuves. Nous te confions nos aspirations à un monde juste, fraternel, pacifié. Et dans le secret du cœur, nous te remettons aussi les êtres qui nous sont chers. Et ensemble, nous voulons te dire maintenant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. en tout temps et en tout lieu. L'Église est la servante du Seigneur. C'est pourquoi elle invite à s'approcher de la table de communion toutes celles et ceux qui ont entendu l'appel du Christ et qui, dans leur cœur, ont répondu oui.
Ce pain que nous rompons est communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez, car tout est prêt.
Père, pour ce pain et ce vin partagé, nous te disons notre reconnaissance. Par cette communion, tu renouvelles nos forces, que notre vie tout entière soit un reflet de ton amour. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Tu veux devenir apôtre, missionnaire, évangéliste, pourquoi pas. Mais commence par rentrer chez toi et par rentrer en toi. Tu portes en toi-même des terres immenses à évangéliser. Tu te dis croyant, mais es-tu crédible? Tes actes, tes pensées, tes désirs, tes paroles, sont-ils ceux du Christ? Tout échappe, peut-être. Mais pour te donner, il faut d'abord t'appartenir. Tu peux évangéliser ton cœur et tu évangéliseras le monde. Deviens ce que tu veux donner, paix, joie, amour, attention aux autres. Vis ce que tu crois et tu le transmettras. Pour porter la lumière, il faut devenir feu. Et en attendant, que Dieu, notre Père, te bénisse et te garde. Allons dans la paix et dans la joie de Dieu. Amen. Et je vous invite à chanter le dernier spontané.